On l'avait surnommé John John, John Fitzgerald Kennedy Jr., né le 25 novembre 1960 à Washington, 16 jours après l'élection de son père à la présidence des États-Unis. Son père, JFK, était devenu le plus jeune président de l'histoire. La suite, on la connaît. Il y a eu l'assassinat de John Kennedy le 22 novembre 63 à Dallas, et puis la fin tragique à 38 ans de ce jeune homme séduisant, véritable playboy, mais pas nécessairement libre de son destin, le 16 juillet 1999 à Martha's Vineyard dans le Massachusetts. Olivier Royan, directeur de la rédaction du Paris Match, vient de consacrer à John Fitzgerald Kennedy Jr. un ouvrage volumineux de plus de 420 pages. Olivier Royan, bonjour.
Bonjour, Paul.
Au-delà de cet ouvrage bien répertorié avec des références historiques, c'est que vous aviez développé une amitié avec JFK Jr.
Ben, c'est-à-dire que ça s'est passé en deux temps. Je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé à New York comme correspondant de Paris Match à la fin des années 80. Et le journal, qui a grandi avec la saga des Kennedy, me demandait toujours une histoire sur John Kennedy Jr. parce qu'il avait été nommé le célibataire le plus sexy de la planète. Alors j'ai essayé de le voir, je lui courais un peu après, à la manière d'un reporter. Et un jour, John, je l'ai croisé plusieurs fois. Je l'ai croisé dans une boîte de nuit à New York. Je l'ai croisé dans l'avion. Je l'ai vu dans l'avion derrière moi pour partir à Los Angeles. Je l'ai vu à Central Park, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et un jour, John s'est lancé dans la presse. Il a lancé ce magazine qui s'appelait George, peut-être dont vous vous en souvenez. Et en fait, par le pur des hasards, c'est un groupe français. C'est le groupe Philippaki, Hachette Philippaki, qui l'a aidé à lancer son magazine. Alors un jour, je l'ai aperçu dans l'ascenseur, on a fait connaissance et on était en fait à quatre étages l'un de l'autre à New York sur notre tour à Broadway. Et c'est comme ça que j'ai vécu le début de l'aventure de George. C'était les Français qui, d'une certaine manière, avaient kidnappé aux Américains leur héritier.
Vous avez rappelé avec justesse, Olivier, ce qu'on savait déjà ici en Amérique, à savoir que la famille Kennedy, à travers l'histoire, est devenue un peu la famille royale américaine, le pendant de la famille royale britannique.
Oui, vous savez, on est toujours en France à la recherche d'une famille royale de substitution, nous qui n'avons plus le droit. Alors c'est vrai qu'on a toujours imaginé les Kennedy comme une sorte de famille royale américaine, ce qui n'est pas faux quand on voit à quel point aujourd'hui il y a une sorte de dimension dynastique dans la politique américaine, puisqu'on voit qu'il y a eu les Bush, il y a eu le frère Robert Kennedy après John, et puis il y a les Clinton, et peut-être qu'un jour il y aura la fille de Trump, on ne sait pas. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais parce que ça part d'une sorte de royaume imaginaire, c'est les 1000 jours de Kennedy à la Maison-Blanche qui créent ce royaume imaginaire de Camelot, comme l'a voulu l'expliquer Jackie Kennedy après la mort du président. Et c'est de là que naît toute la mythologie autour de Kennedy. Et John Jr. fait partie de cette mythologie. Il est célèbre avant même d'être né, puisqu'il y a une couverture de Life Magazine à deux mois avant sa naissance qui montre Jackie enceinte. Et l'instant où il naît, ça va devenir un événement aux États-Unis. C'est une sorte de naissance royale, puisque je crois qu'il y a un observateur anglais, un journaliste de Londres, qui décrit la naissance de John à Washington comme un événement, on croirait la naissance d'un Windsor.
En lisant votre livre, Olivier, j'ai revu deux photos du jeune John John. Celle célèbre, alors qu'il est sous le bureau de son père, ce qu'on appelait le Resolute Desk dans le bureau ovale, et bien entendu, le 25 novembre, 3 jours après l'assassinat de son père, il est avec sa mère, Jackie, et il fait un salut militaire lors du passage du cercueil. Des images qui appartiennent à l'histoire.
Qui appartiennent à l'histoire. Ce qui est très curieux, c'est que vous savez, il refusait qu'on l'appelle John John. C'est la pire chose. C'est un sobriquet dont il a essayé de se priver pendant toute sa vie. Les gamins à l'école, ils sortaient les poings quand on l'appelait John John. C'est un journaliste de la Maison Blanche, un reporter qui a entendu un jour le président des États-Unis courir après son petit gamin turbulent, qui n'arrêtait pas de virevolter, de courir dans les couloirs de la Maison-Blanche, et le président faisait « John, John ». Et le reporter a cru qu'il s'agissait d'un surnom. John n'a jamais été son surnom, il y a toujours eu, en fait, d'une certaine manière, qu'un seul John, puisque la famille appelait JFK, elle l'appelait Jack. Alors c'est vrai que le président Kennedy a tout de suite compris l'importance des images, même dans la communication, et il faut dire que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de ce salut militaire, puisque c'est une sorte de geste spontané que fait l'enfant devant le cercueil de son père, et on se rend compte que ça faisait plusieurs jours qu'il baignait dans une ambiance militaire. Par exemple, le président Kennedy a pris son fils pour le 12 novembre, il l'a pris avec, le 11 novembre ou 12 novembre, il l'a pris avec lui pour une cérémonie à Arlington. Et John a vu, même sa mère l'a fait répéter le salut militaire avant que le petit garçon accompagne son père à Arlington pour les cérémonies de Memorial Day. Et puis, il s'est passé une chose à la fin de la cérémonie, à la fin des obsèques du président à la cathédrale Saint-Matthews de Washington. Le petit a commencé un peu à s'agiter, ne perdait pas, avait pas d'attention. Donc Jackie Kennedy l'a confié à un garde du corps qui l'a emmené à l'arrière de l'église. Et là, pour lui passer le temps, pour le distraire, il y a un marine avec beaucoup de médailles sur le torse qui lui a appris à faire le salut militaire. Il lui a dit non, c'est pas avec la main gauche, c'est avec la main droite. Et en fait, c'est ce qui a résulté du geste spontané du petit enfant qui est rentré à cet instant dans la mémoire collective du monde et de l'univers tout entier, à savoir que Jackie n'a pas vu son petit garçon faire le salut. En revanche, tous les Américains, toutes les télévisions du monde entier l'ont vu.
Olivier, remontons au 16 juillet 99. La mort de John Fitzgerald Jr. à 38 ans, avec celle qu'il aimait, qu'il avait épousée, Caroline Bessette, et la sœur de Caroline Bessette, donc sa belle-sœur. Racontez-nous un peu les circonstances du drame.
Alors moi, je suis éloigné. C'est pour moi, je suis dans une. En fait, je suis en Bretagne quand j'apprends le drame. Je l'apprends au volant de ma voiture. Je suis dans un. Il fait très beau en Bretagne et pour moi, ça va être un drame absolu. J'ai l'impression que c'est une sorte de choc. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de mon rêve américain parce que évidemment, je faisais partie de ceux qui pensaient que John serait un jour président des États-Unis. Il s'agit d'un drame de l'imprudence. John est un pilote du dimanche. C'est quelqu'un qui est passionné d'aviation depuis son enfance. Il ne pense qu'à ça. Et il a décidé de prendre l'air le vendredi soir avec son avion depuis le New Jersey pour aller assister à un mariage justement à Hyannisport de Rory, le dernier enfant de Robert Kennedy. Il y a une circonstance, il y a des pilotes qui décident de ne pas prendre l'air ce soir-là parce qu'il y a de la brume. John fait l'arbitrage de voler. Il part un peu tard, il est avec donc Caroline et avec Lorraine, sa belle-sœur, et il a consulté des rapports météo avant de prendre l'air, et il considère que la météo va s'améliorer. Alors il ne pleut pas, ce n'est pas une tempête, mais en revanche, il y a une sorte de brume épaisse sur toute la Nouvelle-Angleterre, et plus il s'approche de Hyannisport, plus il s'approche, il monte vers Boston, au lieu d'avoir une atmosphère qui s'éclaircit, la brume s'épaissit. Et il va se passer un drame absolu que peut-être les skieurs connaissent. Nous connaissons ça parfois quand nous connaissons le jour blanc à la montagne.
Oui.
Il va être victime de désorientation spatiale. Il ne sait plus si l'avion monte ou s'il descend. Et ça va être la spirale du cimetière, comme l'appellent les pilotes dans ce cas-là.
Il a perdu tous ses repères.
C'est ce phénomène qu'on appelle désorientation spatiale. Alors évidemment, la question, c'est que John ne pilotait pas aux instruments. Il pilotait à vue. Il n'avait pas entièrement fini sa formation de pilote pour pouvoir avoir le droit de piloter par tout temps et de piloter aux instruments parce que normalement, dans une situation comme celle-là, un pilote est capable de se ressaisir grâce aux instruments qui sont devant lui. C'est une qualification qu'il n'avait pas encore. Alors, c'est terrible parce que John est mort de sa passion. Il a emmené avec lui sa femme et sa belle-sœur. Et d'une certaine manière, le rapport que j'ai consulté, qui fait plus de 180 pages, le rapport du NTSB, qui est paru deux ans plus tard, ne fait pas de doute sur la faute de pilotage.
Alors Olivier, en terminant, il nous reste moins d'une minute. Vous venez de le dire, vous étiez convaincu que John Fitzgerald Kennedy Jr. aurait pu devenir président des États-Unis.
C'était notre rêve. Et vous savez où est née l'idée de mon livre? Est née à Montréal, il y a deux ans et demi, ou trois, près de deux ans et demi, quand j'ai vu une affiche de Justin Trudeau. Je me suis demandé, mais ça y est, Justin Trudeau va peut-être être élu Premier ministre. Et qu'est-ce qui serait advenu de John? Et c'est une question qui n'a jamais cessé de me hanter depuis 20 ans, avec en plus l'élection de Donald Trump, avec cette Amérique qu'on a l'impression qu'il marche sur la tête parfois. Et on a l'impression, nous, notre rêve, évidemment, on se projetait énormément dans John, mais c'était notre rêve, c'était pas son rêve à lui. Lui aurait voulu, je pense, être un homme, voulait échapper à ce destin. C'est une histoire d'une filiation impossible, c'est l'histoire de quelqu'un à qui on interdit de réel, mais nous, on pensait qu'un jour, il serait à la Maison-Blanche.
Merci beaucoup, Olivier Royan. Votre livre paraît aux éditions de l'Observatoire, et il est consacré, bien sûr, au fils de JFK, John, le dernier des Kennedy. Au revoir.
Au revoir, Paul.